chef de file des soins infirmiers, assurant la sauvegarde des hautes normes de qualité, cherchant à promouvoir l'enseignement, la recherche, l'encadrement, le soutien et le développement des compétences et de l'excellence clinique. Nous sommes la direction des soins infirmiers du CIUS de l'Est-Richu. Bienvenue à Savoir et Stéthoscope.
Bonjour à tous, bienvenue au deuxième épisode de ce balado Savoir et Stéthoscope. Mon nom est Stécie Corriveau, je suis conseillère cadre clinicienne à la direction des soins infirmiers et je suis votre animatrice aujourd'hui en compagnie de
Annie-Laurence Duval-Martin. Je suis aussi conseillère cadre clinicienne à la direction des soins infirmiers et je vais co-animer ce balado avec Stécie. Aujourd'hui, on se pose comme question, c'est quoi les responsabilités professionnelles des externes en soins infirmiers, des CPI, des CPA? Pour en discuter, on a avec nous Julie Blanchette. Allô, Julie.
Bonjour tout le monde. Alors oui, je m'appelle Julie, je suis conseillère en soins infirmiers au CIUS de l'Est-Richu depuis 2016 et je complète sous peu ma maîtrise en droit et politique de la santé ici à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Et je m'intéresse particulièrement au droit professionnel, donc notamment la pratique professionnelle des soins infirmiers.
Nouveautés, développement, accomplissement. Quoi de neuf à la DSI?
Mesdames, avez-vous entendu parler de la nouvelle règle de soins infirmiers ECG au repos? Cette règle de soins vise à encadrer la pratique clinique de l'infirmière lorsqu'elle initie un électrocardiogramme STAT pour un usager qui, selon son jugement clinique, présente une situation clinique qu'il justifie. Pour plus d'infos, elle est accessible dans les méthodes de soins infirmiers.
Soit dit en passant, je salue particulièrement cette décision de la DSI d'étendre l'encadrement d'initier l'ECG STAT à tous les milieux cliniques. C'est une activité clinique qui s'intègre dans trois de nos activités réservées, dont les deux activités réservées phares du champ d'exercice infirmier, soit d'évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique et d'exercer une surveillance clinique des personnes dont l'état de santé présente des risques, incluant le monitorage. Donc, un beau pas de plus vers la pleine utilisation du champ d'exercice des infirmières.
Hey, je change de sujet, mais est-ce que vous avez vu la nouvelle section pratique professionnelle en soins infirmiers dans l'intranet? C'est une section là, qu'on a faite à la DSI spécifiquement pour les soins infirmiers qui facilite l'accès aux documents pour les équipes de soins. Pour trouver la section, vous allez sur la page principale de l'intranet, dans l'onglet « Outils cliniques ». Vous y trouverez la section « Pratique professionnelle ». Dans cette section, on va retrouver des outils en lien avec les champs d'exercice, des outils d'aide à la décision, puis des avis cliniques de la DSI. Fait que je vous invite à la consulter. Toi, Stacy, est-ce que ça t'est déjà arrivé comme CPI de te demander si tu avais le droit de déterminer un PTI ou encore où se situait ta limite face à un patient instable? Est-ce que, je sais pas, moi, tu t'es déjà senti mêlé quant à tes responsabilités ou celles de tes collègues infirmières auxiliaires, par exemple?
Oui, à plusieurs reprises, ça m'est déjà arrivé et je crois que ça nous arrive tous à un moment ou à un autre. En effet, les responsabilités professionnelles des externes, des CPI et des CPA soulèvent souvent des questions. Sachez qu'au sein de l'intranet et des sites Internet des autres professionnels, il est possible de retracer les activités réservées que peuvent exercer une externe, une CPI et même encore une CPA.
Puis plus précisément, aujourd'hui, le sujet concerne certaines des questions ou des ambiguïtés rencontrées par les nouvelles ressources en soins infirmiers, puis même parfois par les professionnels plus expérimentés, en espérant que ce balado vous permettra d'avoir un meilleur regard sur notre profession.
Savoir et stéthoscope, ça commence maintenant.
D'entrée de jeu, on a posé la question à d'anciennes CPI et CPA, à savoir, pour eux, en quelques mots, c'est quoi la différence entre évaluer et contribuer à l'évaluation? Juste pour votre information, ces personnes ont accepté d'être identifiées dans le balado.
Mais je pense qu'évaluer, c'est un petit peu tout. Là. C'est de voir comment la personne va dans son ensemble, si elle a de la douleur, si elle... comment elle sent aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment un ensemble de facteurs. Il ne faut pas juste se fier aux éléments qui ont été évalués là, par l'infirmière avant nous, qui a laissé une note dans le rapport, comme de quoi, par exemple, qu'il y avait une rougeur à telle place. Je pense que notre rôle, quand on arrive avec notre patient, c'est vraiment de refaire l'évaluation au complet, là, de la tête aux pieds.
L'infirmier, c'est un peu Sherlock, puis dans le fond, l'auxiliaire, c'est son Watson. Fait qu'on sait que Watson aide toujours un peu, dans le fond, Sherlock à mettre la main sur le criminel. Fait que c'est un peu la même façon au niveau des soins infirmiers. L'auxiliaire va venir donner un coup de pouce, dans le fond, à son infirmier, à Sherlock Holmes, pour, dans le fond, mettre le point sur le petit bobo du patient.
Démêler ce que chaque professionnel peut faire. Fait que moi, comme infirmière, qu'est-ce que je peux déléguer à l'externe, ce que je peux déléguer à l'auxiliaire. C'est encore à ce jour, j'ai de la misère. Des fois, je suis dit, oh, tu pourrais-tu aller me faire ça? Finalement, pas le droit. Fait que là, je suis tout mêlé.
J'adore le commentaire de Frédéric où il compare avec l'image de Sherlock Holmes pour l'infirmière et Watson pour l'infirmière auxiliaire. Ça me fait sourire parce que c'est une belle façon simpliste d'imaginer le tout.
Puis, ironiquement, là, même si évaluer puis contribuer à l'évaluation, c'est les assises respectives des champs d'exercice de l'infirmière et de l'infirmière auxiliaire, bien même pour des professionnels plus expérimentés, ça demeure toujours difficile à démystifier. La différence entre l'infirmière et l'infirmière auxiliaire, ça se résume pas à administrer des médicaments intraveineux, entre autres. Hein, parce que techniquement parlant, l'infirmière auxiliaire est habilitée à exercer, je dirais, un 90 % des techniques de soins de l'infirmière. Donc, la différence dans nos pratiques, c'est vraiment pas à ce niveau-là. L'infirmière auxiliaire va surtout contribuer à l'évaluation, autant par exemple lors de la collecte des données initiales que lors d'un changement dans l'état du patient, prendre des signes vitaux, évaluer une douleur, évaluer un risque de lésion de pression avec le Braden, ausculter des bruits pulmonaires. Ce sont tous des éléments qui constituent des intrants de l'évaluation, c'est-à-dire des données, des observations collectées de façon objective ou subjective, avec ou non des échelles ou des grilles d'évaluation qui font partie de la contribution à l'évaluation par l'infirmière auxiliaire. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré qu'on a un certain chevauchement dans nos champs d'exercice respectifs, qui soulève donc une étroite collaboration entre l'infirmière et l'infirmière auxiliaire, bien, l'infirmière auxiliaire demeure pleinement responsable des interventions ou des décisions qu'elle prend. Donc, par exemple, de transmettre ou non des informations à l'infirmière, bien, pour les ordres, c'est clair. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de lien de subordination entre l'infirmière et l'infirmière auxiliaire, tout comme entre l'infirmière et le médecin. On a chacun des responsabilités qui s'inscrivent dans notre champ d'exercice respectif, notre code de déontologie qui guide notre pratique au quotidien, point final. Quand on parle d'évaluation, au sens qu'on le reconnaît pour le champ d'exercice vraiment de l'infirmière, ça s'interprète davantage comme le fait de détenir une vision globale de l'individu. L'infirmière, elle va tenir compte, oui, des intrants collectés par l'infirmière auxiliaire, mais aussi toute donnée qu'elle va choisir elle-même d'aller chercher pour approfondir sa collecte de données, en plus de devoir tenir compte des autres éléments qui ne sont pas nécessairement recueillis auprès de l'usager. Par exemple, son diagnostic, ses risques de complications, sa médication usuelle, puis celle qui a été nouvellement ajoutée. Ça pourrait être aussi des éléments soulevés par d'autres professionnels comme la nutritionniste, la physio. Bref, elle doit aller chercher l'ensemble des infos pour pouvoir ensuite analyser tout ça et mettre des constats, formuler des hypothèses, par exemple sur un risque de complication, puis mettre en place des interventions pour permettre, par exemple, de prévenir les complications. Fait qu'elle va donc aussi déterminer des directives, des interventions pour planifier la surveillance, le suivi, la continuité. Fait que tout ça, ça s'établit au sein d'un processus qui est analytique, qui est cognitif, qui devrait être, selon moi, intrinsèque à toutes les infirmières, puis c'est ce qu'on appelle une démarche de soins. Cette démarche-là, ça nécessite aussi d'établir des communications efficaces avec les médecins, les autres professionnels, tous les autres membres de l'équipe, même le préposé et l'usager, ses proches. Puis documenter tout ça, c'est ça qui fait foi des moyens qui sont mis en place par l'infirmière pour être capable, après ça, d'apprécier sa démarche, son raisonnement, d'assurer le suivi, la continuité, notamment avec le fameux PTI qui laisse une traçabilité de nos directives mises en place. Donc, vous comprendrez que la CEP, non seulement elle peut, mais elle doit déterminer des directives au PTI qui vont découler de ses activités réservées, autorisées, ce qui veut donc exclure, bien sûr, le PTI en lien avec la détermination d'un plan de traitement de soins de plaie, mais en lien avec les surveillances d'un usager qui présente un risque de dépression du système nerveux central puis qui prend les opiacés, bien oui, il faut qu'elle fasse son PTI.
C'est tellement intéressant. Merci beaucoup, Julie. Je trouve que c'est tellement bien vulgarisé. C'est quelque chose qui est complexe, les champs de pratique, la collaboration interprofessionnelle, intraprofessionnelle. Et de la façon que tu nous l'expliques, c'est tellement plus simple.
Puis il y a tellement de fausses croyances aussi, tu sais, entre autres, tu as terminé avec le PTI, mais quand j'étais conseillère en soins facilitatrice, j'ai souvent vu des CPI dire « je peux pas compléter le PTI, j'ai pas le droit », mais c'est pas vrai, là, dans le fond, là, elle ne peut pas compléter le PTI pour les activités réservées qu'elle ne peut pas faire, donc, comme Julie a nommé, déterminer le plan de traitement d'une plaie.
D'ailleurs, nous avons demandé à des anciens CPI et CPA comment ils ont réagi ou comment ils réagiraient si on leur demandait de faire une activité qu'ils n'ont pas le droit de faire ou qu'ils n'ont pas les connaissances et les compétences pour la réaliser.
Puis si je me sens pas à l'aise par manque de connaissances ou de compétences, bien, je vais m'informer. Par exemple, si c'est une technique de soins que j'ai jamais faite, il y a toujours des méthodes de soins, il y a du monde qui sont là pour m'aider. Je vais le dire que ça, c'est hors de mes compétences ou de mes connaissances, que je ne sais pas comment le faire, puis je vais apprendre par rapport à ça pour être capable de le faire.
Si je pense que je suis pas à l'aise de faire quelque chose, ça m'est arrivé plusieurs fois là, de demander à l'infirmière de venir avec moi pour qu'elle le fasse devant moi pour pouvoir l'observer. Et pas nécessairement juste une fois. Des fois, c'est arrivé qu'une même technique, j'ai demandé à l'observer plusieurs fois. À la suite de ça, j'ai demandé à l'infirmière d'être avec moi pendant que je le faisais pour finalement, les fois d'après, être capable de faire la technique par moi-même. Je pense que c'est vraiment important, puis pour la sécurité aussi de l'usager.
On est aussi allé questionner la future relève sur quoi faire si l'état d'un usager se détériore.
En tant que CPI, quand t'as un patient qui décompense, peu importe, je pense que t'as pas nécessairement le droit, mais je sais pas comment l'expliquer, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une infirmière qui te supervise quand tes patients ils sont plus instables. Ça, c'est rassurant de savoir ça à cause de l'aspect légal et tout.
Fait que c'est intéressant ces commentaires soulevés parce qu'ils ont tous un point en commun. Ils viennent appuyer un article fondamental qui se trouve autant au sein du code de déonto des infirmières que celui des infirmières auxiliaires, bien qu'il est libellé un peu différemment, là. C'est que les professionnels, qu'elles soient novices ou plus expérimentées, doivent toujours agir avec compétence, puis ça l'insinue alors de devoir tenir compte des limites de nos habiletés et de nos connaissances. Puis ça, Amélie le nomme super bien, hein. Je le dis que c'est hors de mes connaissances et compétences, puis que c'est la responsabilité de toute professionnelle de le dire. Puis parallèlement, bien, les codes de déonto réfèrent aussi à l'obligation professionnelle de devoir consulter une autre infirmière ou un autre professionnel quand la situation de l'usager l'exige, puis que je ne suis pas en mesure de répondre par moi-même. Face à la question de l'instabilité du client, d'ailleurs, quand on dit que la CPI et CPA ne doit pas prendre en charge un usager instable, puis qu'on me demande bien, c'est quoi exactement un usager instable, bien, désolé de dire qu'il n'y a pas de description formelle à cet effet. C'est à partir du moment où la novice considère qu'elle n'est plus en mesure de suivre l'évolution de la condition de l'usager, qui nécessite souvent une surveillance quasi constante avec plusieurs changements dans son plan, dans son processus thérapeutique, bien, il faut qu'elle nomme. Puis l'ASI, donc, doit notamment être à l'affût de ça puis prendre des décisions qui s'imposent. Il faut garder en tête qu'on travaille tous pour un seul et même objectif, et ça, peu importe notre milieu, là, c'est d'assurer la qualité puis la sécurité des soins des usagers. Puis ça aussi, Ariel le nomme super bien. C'est vraiment important pour la sécurité du patient. Aussi, je me permets de faire un autre parallèle en matière d'obligation déonto, tant pour l'infirmière que l'infirmière auxiliaire, c'est qu'on doit sans cesse se développer puis maintenir ses connaissances puis ses compétences à jour. Donc oui, ça se fait par de la formation, notamment en respect des normes de formation continue, mais aussi en démontrant une curiosité d'apprendre et de se développer, hein, de lire, de poser des questions, de consulter des méthodes de soins ou par de l'observation, ce qui a d'ailleurs été nommé par Amélie et Ariel. Donc, pour revenir un petit peu en arrière avec le respect de ses limites en matière de connaissances et de compétences, je me dois aussi de me dire, mais qu'est-ce que je vais faire pour justement me développer puis me mettre à jour? Et cette fois-ci, je m'adresse un peu plus au personnel un peu plus expérimenté qui agissent soit formellement à titre de tuteur, tutrice ou non, là, mais on a tous aussi comme devoir, comme obligation déontologique, entre autres une fois, là, tant les infirmières que les infirmières auxiliaires, dans la mesure du possible, là, d'échanger nos connaissances avec les autres infirmières, infirmiers, les étudiants, les autres personnes comme les externes, les CPI, les CPA. C'est donc une obligation déontologique qui s'inscrit bien en dehors des relations de travail et des conventions syndicales. Si je reprends précisément l'article 73 du Code de déonto des infirmières auxiliaires, là, notamment, ça dit « Le membre doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de la profession par l'échange de ses connaissances et de son expérience avec les autres membres et étudiants. »
On l'oublie qu'on commence en quelque part, hein?
Oui, certainement. Certainement, puis ce que j'aime dans ce que Julie dit, c'est qu'on entend souvent encore une fois la fausse croyance que bien, ça revient juste à l'infirmière clinicienne de partager ses connaissances, de prendre sous son aile une CPA, peu importe, alors que finalement, on comprend que ça revient autant à l'infirmière clinicienne qu'à l'infirmière auxiliaire. Fait que c'est vraiment super important et on contribue tous et toutes là, au développement de notre élève.
On parle beaucoup de systématisation des soins.
Qui ne tient pas toujours compte du niveau d'acuité des soins.
Mais est-ce que les gens savent qu'est-ce que ça veut dire, la systématisation des soins?
Pas certaine. À voir dont les gens, justement, les professionnels, en fait, vont œuvrer au sein des unités, selon des cultures de soins, des routines qu'on dit souvent cristallisées, je suis pas certaine qu'ils comprennent cette notion-là.
Puis est-ce que c'est favorable de systématiser les soins? On s'y est beaucoup intéressé dans les derniers mois.
On est justement allé questionner la relève en soins infirmiers par rapport à ces sujets-là. On leur a demandé si, selon eux, là, est-ce que ça favorise vraiment la mise en application du champ d'exercice professionnel? Puis justement, Frédéric répond à la question.
Je pense qu'il y a deux côtés, deux envers à la médaille dans cette situation-là. Dans le sens que, oui, des fois, des procédés, des processus qui sont ancrés, bien, de cette façon-là, ça nous permet de l'inclure dans la routine. Puis c'est des choses qui sont toujours faites, puis qu'on n'oublie pas pour avoir seulement une image ou comme une image complète, dans le fond, de la situation de mon patient, la situation clinique de mon patient. Cependant, si je prends un exemple, c'est sûr qu'il y a des trucs, c'est comme ça devient des réflexes de les faire rapidement, dans le sens que, ah, c'est me demandé, je vais me le faire. Un exemple. exemple, tu sais, on les CAM, en fond, au niveau des déliriums, mais tu sais, à chaque matin, c'est demandé à 6 heures de faire un CAM. Sauf que, tu sais, moi, au niveau de mon évaluation infirmière, je trouve ça plus ou moins pertinent que ça soit ancré à cette heure-là, dans ce corps de travail-là, parce que je vois pas nécessairement, en fond, les changements d'état de mon patient. Tu sais, dans le fond, de minuit à 6 heures, si tout se passe bien, il dort. Puis après ça, je le vois de 6 heures à 8 heures. Puis même moi, quand je me lève, tu sais, on s'entend, je peux être mêlé aussi, ou je peux être marabout, tente pas de répondre. C'est sûr que, tu sais, certains processus ou certaines évaluations qui sont écrites, je les trouve plus ou moins pertinentes, versus qu'il y en a d'autres que c'est oui, c'est essentiel de les faire. Fait que, tu sais, c'est ça, il faudrait vraiment faire du cas par cas à ce niveau-là.
Ah, ce cher Frédéric, hein? En effet, son raisonnement derrière la complétion du CAM, là, qui est pour le dépistage d'une suspicion de délirium, à 6 heures du matin, de façon systématique, ça peut poser bien des questionnements. Puis là, entendez-moi bien que je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait arrêter de compléter les CAM. Parce que bien que je crois qu'en effet, il faudrait réfléchir davantage à l'imposition des évaluations systémiques pour à peu près tous les usagers, aux dépens de considérer le jugement clinique du professionnel, je dis pas qu'il faut les retirer pour l'autant. Ça se pourrait, par exemple, que pour Monsieur X, ben, je vais documenter deux fois le CAM dans le même corps de travail parce que je veux exposer la situation comme quoi qu'il y a un état qui fluctue. Puis qu'à contrario, ben, j'ai Madame Y, pour qui l'infirmière auxiliaire me rapporte que ça va bien, qu'elle est bien orientée, qu'elle a eu une bonne nuit, alors que là, je suis aux prises avec un usager instable. Ben, dans une situation où je me dois, comme professionnelle prudente et diligente, de prioriser mes interventions en vertu du niveau d'acuité des soins et des risques présents pour l'usager, ben, clairement que la documentation du CAM de Mme Y, ça ne sera pas ma priorité puis ça se défendrait bien. Mais cependant, j'assumerai la responsabilité comme professionnelle d'avoir pris cette décision-là. Et là, je reviens un petit peu sur la notion d'évaluation pour l'infirmière et l'ambiguïté entre évaluer et contribuer à l'évaluation. Je crois que c'est important d'y revenir pour nos novices qui débutent sous peu, pour les aider à se positionner, même si ce n'est pas évident en début de carrière. Vous vous souvenez sûrement de l'explication que je donnais sur la démarche de soins, qui devrait être un processus cognitif-analytique qui est intrinsèque à toute infirmière. Plus souvent, on me dit « Ouais, mais en réalité, là, on n'a pas le temps de tout faire ça comme infirmière, de tout analyser, de faire les appels, les demandes de consultation, la documentation, encore moins les PTI. » Ou encore, lorsque je parlais tantôt des professionnels expérimentés qui savent pas toujours non plus faire la différence entre évaluer et contribuer à l'évaluation. Ben, en fait, j'ai un peu comme mon hypothèse là-dessus, qui est d'ailleurs appuyée sur la littérature, là. À l'effet que la culture de prestation des soins infirmiers dans nos milieux va y être pour beaucoup dans cette incompréhension-là, puis sur le sentiment de l'infirmière de ne pas être en mesure de répondre à ses obligations. Par exemple, l'imposition des routines de soins en diade où l'infirmière et l'infirmière auxiliaire se suivent au même rythme pendant qu'une prépare et donne la médication. Ben, l'autre, elle fait les évaluations, et entendez-moi bien, évaluations entre guillemets, parce qu'en fait, c'est des collectes de données que l'infirmière auxiliaire peut aussi très bien faire. En procédant comme ça, on empêche l'infirmière d'exercer son plein champ d'exercice, puis de répondre adéquatement, puis de façon sécuritaire aux besoins réels de la condition des usagers. L'infirmière, elle devrait, puis j'oserais même dire, elle se doit de pouvoir déterminer, par exemple, suite au rapport interservice, ben, c'est quoi ses priorités d'intervention en fonction de l'acuité des soins des usagers, puis où elle sait pertinemment que ça va solliciter son champ d'exercice. Ça, ça va avoir un impact pas seulement sur le respect des responsabilités des infirmières ou sur la sécurité des soins des usagers, mais aussi sur plein d'autres extras comme la fluidité des soins, la continuité des soins. Un autre exemple que je vois souvent, c'est le fait qu'on sépare la charge de travail entre l'infirmière et l'infirmière auxiliaire en tenant compte de la lourdeur des activités de soins à faire. Ça, ça l'aide pas bien, bien. Hein, il y a 6 pansements à faire, j'en fais 6, t'en fais 6. Mais qui va s'occuper pendant ce temps-là de M. B, qui est symptomatique d'une chute d'hémoglobine, qui a besoin d'une transfusion puis qui fait une réaction transfusionnelle? Qui va s'assurer de déterminer le plan de traitement de la plaie de Mme Z, qui démontre clairement des signes de dénutrition qui nuit au processus de cicatrisation? Alors que madame était censée sortir il y a déjà 2 jours, mais qu'elle était encore hospitalisée pour une plaie infectée qui a été découverte fortuitement la veille du départ. Comment ça se fait d'ailleurs que cette plaie-là n'a pas été détectée avant la veille de son congé alors qu'elle était hospitalisée depuis 7 jours? Le pire, c'est quand j'entends « on sépare les notes 50-50 ». Mais moi, là, honnêtement, quand je travaille comme professionnelle clinique là, au chevet des usagers, jamais j'accepte ça. Comment voudrais-je prendre le risque d'être imputé des interventions ou des supposées évaluations que je n'ai pas moi-même fait ou à moitié fait? Je vais juste terminer là-dessus. Une infirmière qui collecte des données sans procéder à l'analyse pour émettre des constats, des hypothèses, pour ensuite poser des interventions, là, mais ce n'est pas ça de l'évaluation, puis c'est encore moins ce qu'on peut appeler une professionnelle prudente et diligente. Puis l'infirmière, c'est par son propre discours, autant par rapport au respect de ses responsabilités professionnelles et de son champ d'exercice que par son leadership clinique qu'elle va parvenir à assumer ses responsabilités, Au-delà de l'imposition des routines de soins par l'organisation de son milieu ou des enjeux de ressources humaines, soit dit en passant, pour lesquels elle n'a aucun contrôle. Donc, comme CPI, CPA externe, sachez reconnaître et accepter les limites de vos compétences, soyez indulgents envers vous-même, allez chercher le soutien nécessaire, puis pourquoi pas re-questionner des façons de faire, parce que parfois, vous allez semer des graines plus que vous le pensez.
Merci beaucoup, Julie. Il y a beaucoup de points que tu as abordés qui sont des questions qui nous sont souvent posées, qui reviennent sans cesse, puis même pour nous, des fois, c'est pas clair tant que ça. Qu'est-ce qui est, bon, l'évaluation, contribution de l'évaluation, c'est des zones grises, mais qui ne sont pas si grises que ça, finalement, quand on t'écoute bien.
Certainement, puis ça apporte aussi beaucoup de réflexion puis de discussions qu'on a entre nous, avec les chefs, les cours d'eau, peu importe, dans comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui, puis est-ce que c'est vraiment la bonne façon qu'on travaille dans le quotidien? Est-ce qu'on a vraiment le bon professionnel au bon endroit, au bon moment?
C'est tellement beau de t'entendre dire ça, Anne-Laurence. En terminant, j'aimerais remercier Julie Blanchette, conseillère en soins infirmiers.
Bien, ça fait réellement plaisir. Merci de m'avoir invitée.
Des accomplissements extraordinaires par des gens dévoués. Voici le coup de cœur de la DSI.
On a un super coup de cœur pour cet épisode.
En effet, on a un coup de cœur remis à Marie-Claude Rodrigue, conseillère cadre clinicienne pour le secteur de soins critiques au CIUS de l'Estrie. Marie-Claude va se voir décerner le prix Denise Paul qui vise à souligner l'engagement, l'implication, en fait, qui vise à souligner la carrière exemplaire de Marie-Claude qui se dévoue jour après jour, cœurs et âmes, pour les soins aux usagers qui sont offerts dans les unités de soins critiques au CIUS de l'Estrie. Non seulement pour les soins aux usagers, mais dans tout le dossier réanimation cardio-respiratoire, dans le dossier simulation clinique, Marie-Claude, on la porte tous un peu en nous parce qu'elle nous a tous, à un moment ou à un autre, tendu la main, écouté, conseillé. Félicitations, Marie-Claude.
Oui, félicitations de tout cœur. Puis à la direction des soins infirmiers, je pense que Marie-Claude, ça a vraiment été tous un peu notre mentor à un moment ou à un autre. On est vraiment contents pour cette belle réussite.
Soins sécuritaires, réontologie, L3S, acte réservé. Ai-je le droit?
Ai-je le droit, comme infirmière auxiliaire, de préparer des médicaments intraveineux? Selon le Code des professions, l'infirmière auxiliaire peut mélanger des substances en vue de compléter la préparation d'un médicament selon une ordonnance. Il n'y a pas de restriction qui s'applique quant à la voie d'administration à ce moment. Toutefois, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec rappelle que l'infirmière doit administrer le médicament qu'elle a elle-même préparé et que dans certaines situations d'urgence ou exceptionnelles, elle pourrait administrer un médicament préparé par une autre personne. Dans ces cas, les deux intervenants doivent documenter leurs actions respectives. Ainsi, considérant que la loi sur les services de santé et les services sociaux indique que la DSI détient le mandat de surveiller et contrôler la qualité des soins infirmiers et peut donc élaborer des règles de soins infirmiers en ce sens, considérant aussi que la jurisprudence tend à nommer que c'est sur la personne qui administre la médication que repose la responsabilité de vérifier la prescription médicale avant de l'administrer, la DSI maintient sa position, telle que soulignée dans la règle de soins pratiques professionnelles reliées à la thérapie intraveineuse, que seule l'infirmière peut préparer et administrer des médicaments ou autres substances intraveineuses.
C'est ce qui conclut le deuxième épisode. Restez à l'affût pour la suite. Quant à nous, nous sommes Stacy Corriveau
et Annie-Laurence Duval-Martin, conseillère cadre à la direction des soins infirmiers. Merci de nous écouter. Suivez-nous sur toutes les bonnes plateformes et surtout, parlez de nous.
Le balado de la direction des soins infirmiers du CIUS de l'Estrie-CHU, Savoir et Stéthoscope, est produit et réalisé entièrement par l'équipe de la DSI. Ce balado a été enregistré et monté dans les studios de CFAC 88.3 à l'Université de Sherbrooke. Merci à eux. À la prochaine pour plus de savoir et stéthoscope.